Bon. Alors ce matin, j'aimerais que nous ouvrions la Bible à la première lettre de Paul aux Thessaloniciens. La première lettre de Paul aux Thessaloniciens. Il y a 15 jours, nous avons lu plusieurs versets dans cet épître, des versets qui parlent de la conversion. Et ce matin, j'aimerais que nous lisions plusieurs versets qui parlent d'un autre sujet qui est présent dans cet épître aux Thessaloniciens. Il s'agit de la consolation. Alors, j'ai choisi ce thème parmi d'autres parce qu'il y a beaucoup de chrétiens qui ont besoin d'être consolés, réconfortés. Toutes les semaines, nous recevons des coups de fil d'un frère, d'une sœur, quelque part, ou une visite de quelqu'un qui a besoin d'être consolé, réconforté. Et si nous sommes des chrétiens, je crois que nous avons toujours besoin d'être consolés. Nous sommes dans un combat qui est rude, et tout est permis, presque, à l'ennemi. Et parfois, on ne sait plus où se tourner la tête. Et on a besoin d'être consolé et réconforté. Donc j'aimerais que dans ces minutes qui suivent, j'aimerais vous souligner plusieurs sources de consolation qui sont disponibles pour les chrétiens. Et si nous suivons ces sources, si nous puisons dans ces sources, chaque jour, nous allons voir que Dieu est vraiment le Dieu de toute consolation. Très souvent, lorsqu'il y a un décès, on prie, « Seigneur, envoie ton consolateur pour réconforter ceux qui pleurent. » Mais ne prions pas uniquement lorsqu'il y a un décès. Parce que toute la semaine, je suis sûr que vous avez des combats, vous avez des luttes, vous avez des difficultés. Et on a besoin de prier les uns pour les autres. Alors, la première lecture, c'est dans le premier verset du premier chapitre. Mais avant de lire, je vais enlever ce pull parce que j'ai commencé à avoir très chaud. En Thessaloniciens, chapitre 1, verset 1. Paul, Sylvain et Timothée. À l'église des Thessaloniciens, qui est en Dieu le Père et dans le Seigneur Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient données. La première source de consolation se trouve dans la présence de Dieu. Être conscient que nous vivons dans la présence de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, la présence de Dieu se manifeste dans notre vie lorsque nous sommes conscients de la réalité de la grâce de Dieu et de la paix de Dieu. Très souvent, nous parlons de la grâce de Dieu comme étant le fait que Dieu nous aime sans que nous le méritions. Et c'est tout à fait ça. Mais si nous sommes toujours conscients que tout est par grâce, que nous n'avons aucun droit, aucun mérite, aucune réclamation à faire, mais Dieu nous aime parce que Dieu nous aime, point barre, eh bien, ça peut nous aider à savoir, mais Seigneur, tu es le Dieu de toute grâce. Tu es présent dans ma vie. Je suis devant toi jour après jour, nuit après nuit. La grâce de Dieu est la paix de Dieu. Oh, la paix que Jésus donne, je ne la connaissais pas, dit un de nos cantiques. La paix de Dieu, shalom, vous savez quand les juifs se saluent avec shalom, cela veut dire littéralement que la paix de Dieu soit avec toi, sur toi, autour de toi et en toi. Lorsque nous avons besoin de la paix de Dieu, demandons-lui de nous donner sa paix en nous, sur nous, autour de nous. La paix de Dieu dans le cœur. Shalom, Dieu est avec nous. Emmanuel, Dieu est avec nous. Est-ce que nous sommes toujours conscients que tout ce que nous le faisons dans la présence de Dieu? Dieu nous accompagne. Dieu est avec nous. Non, jamais tout seul. Pour moi, c'est une source de consolation de savoir que Dieu est là. Il me voit. Il compte le nombre de cheveux sur ma tête. Vous savez, j'ai appris l'autre jour qu'en fonction de la couleur des cheveux, on a un nombre différent. Il paraît que les roux, ils ont 80 000 cheveux sur la tête. Ceux qui ont les cheveux foncés ou noirs, ils ont 100 000. Et les blondes, je ne permets pas de blagues sur les blondes, ni sur les blonds, ils ont 122 000 cheveux sur la tête. Mais Dieu compte les cheveux sur notre tête. Il nous connaît. Il nous aime. Nous sommes précieux à ses yeux. Ça, c'est la première chose. Je pense à ce que dit Paul. Dieu nous réconforte dans toutes nos détresses. Il était conscient de la grâce de Dieu et de la paix de Dieu. Certaines personnes ici ont entendu parler de Corrie ten Boom. Eh bien, jeudi dernier, le 27 février, c'était le 69e anniversaire depuis son arrestation aux Pays-Bas. Elle, avec sa famille, ils ont sauvé la vie de 800 juifs. Et elle a été emmenée à Ravensbrück. Plusieurs membres de sa famille sont décédés dans le camp. Mais pendant toute cette période, et pendant les années après, Corrie ten Boom a pu parler du fait que ce qui lui a permis de tenir le coup, c'était qu'elle était consciente de la grâce et de la paix de Dieu, de la présence de Dieu dans sa vie. Malgré les difficultés, malgré les persécutions, malgré les souffrances, elle était consciente de la paix de Dieu dans sa vie. Ça, c'est la première chose. Deuxième source de consolation dans la vie du chrétien. Oh, j'ai sauté un chapitre, je crois. Voilà. Hein? Oui, j'ai sauté un chapitre. En tout cas, on va lire le deuxième verset du premier chapitre. Non pas ce qui est là-haut. Le deuxième verset du premier chapitre. Nous rendons continuellement grâce à Dieu pour vous tous en faisant mention de vous dans nos prières. La deuxième source de consolation pour les chrétiens, c'est les prières des autres. Alors là, je touche un sujet un peu sensible. Le fait de savoir que des gens prient pour moi est une source de réconfort, de consolation. Alors, ce qui veut dire que nous devons nous poser des questions. Est-ce que je prie pour mes frères et sœurs? Est-ce que mes frères et sœurs prient pour moi? Je ne peux pas vous dire, si vous priez pour tout le monde priera pour vous. Mais le fait de savoir que des gens prient pour soi, cela nous aide. Aussi à savoir qu'on n'est pas seul dans nos difficultés. On n'est pas seul dans nos maladies. On n'est pas seul dans nos épreuves, dans nos afflictions. Il y a des gens qui prient pour nous. Ce qui veut dire que je vous encourage tous à prier pour les gens qui sont assis devant vous ce matin, derrière vous, à côté de vous, ceux qui seront avec vous dimanche prochain. La prière ne se limite pas uniquement au jeudi soir ou au groupe de maisons décentralisées, mais nous devons prier les uns pour les autres constamment. Nous faisons partie de la famille de Dieu. Nous partageons nos biens, nos soucis, nos joies, nos fardeaux. Je vous encourage tous à prier les uns pour les autres. Et surtout ceux qui ont des responsabilités, nous devons prier pour les uns et pour les autres. Je pense à ce qu'a dit le prophète Samuel devant le peuple de Dieu autrefois. Il a dit, « Loin de moi de pécher et de ne pas prier pour vous. » 1 Samuel, chapitre 12. Et en tant qu'ancien, en tant que responsable des cours du dimanche, en tant que responsable du groupe de jeunes, vous avez tous une responsabilité de prier pour les gens qui vous sont confiés. Si vous êtes mono, animatrice, animateur de l'école du dimanche, vous avez une responsabilité de prier pour les enfants, les gamins, les préados, les jeunes. Prions les uns pour les autres parce que Dieu entend nos prières. Nous avons un cher ami qui est très, très malade en ce moment. Et sa vie vient de basculer. Il avait des projets et tout d'un coup, il se trouvait presque à la rue à cause d'une vente de maison et puis une maladie qui lui est survenue, une maladie très grave. Et il nous a écrit l'autre jour en disant, quel réconfort de savoir que des gens prient pour moi en ce moment. Obligé de déménager, trouver un appartement, se faire soigner dans une ville à 60 km de chez lui, beaucoup de soucis. Mais il est réconforté de savoir que des gens prient pour lui. Les amis, je vous encourage à prier les uns pour les autres, parce que nous avons tous besoin de la prière. Qu'on soit fort ou qu'on donne l'impression d'être fort, qu'on soit faible, on a tous besoin de la prière des uns et des autres. Troisième source de consolation, la confiance qui vient de Dieu seul. Je vous lis 1 Thessaloniciens, je vous invite à suivre avec moi, chapitre 2, versets 1 et 2. Vous savez vous-même, frères, que notre arrivée chez vous n'a pas été sans résultat. Mais après avoir souffert et après avoir été maltraité à Philippe, comme vous le savez, nous avons pris de l'assurance en notre Dieu pour vous annoncer l'évangile de Dieu au milieu de bien des combats. Paul et ses équipiers ont souffert en annonçant l'évangile. Ils savaient que les Thessaloniciens souffraient en recevant l'évangile. Et Paul dit, mais dans nos souffrances, nous avons trouvé la force dans notre relation avec le Seigneur. Dans une autre version, il est écrit, nous avons été maltraités, mais malgré cela, nous avons puisé dans la communion avec notre Dieu le courage et une joyeuse assurance. Puiser dans la communion avec Dieu le courage et l'assurance. Lorsque Paul et ses équipiers étaient maltraités, ils n'ont pas décidé d'aller boire un coup. Ils n'ont pas décidé de passer un DVD pour se changer les idées. Ils ont décidé de prier, de se tourner vers Dieu et de dire, Seigneur, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin d'un renouveau de notre courage. Nous avons besoin de ta présence et de ta force. Je vous propose un petit dicton. Voilà, ça c'est le verset selon Africune. Quand tout fout le camp, le Seigneur sa main, il nous tend. Quand on est au bout, tournons-nous vers le Seigneur. Et tournons-nous vers le Seigneur même avant d'être au bout. Au bout du rouleau, le Seigneur nous tend sa main. Il ne tend que ça. Qu'on se tourne vers lui et qu'on vide notre sac devant lui. Et qu'on lui dise tout ce que nous avons sur le cœur. Nous avons besoin d'un face-à-face avec Dieu, même, je dirais, avant de faire un face-à-face avec les autres. Je pense à Néhémie, au chapitre 1 dans son livre, il prie. Chapitre 2 dans son livre, il est face à l'empereur, l'homme le plus puissant de la planète. Et il a pu parler à l'empereur parce qu'il avait déjà parlé au roi des rois et au seigneur des seigneurs. Profitons-en, tournons-nous vers le Seigneur, pour trouver la confiance que nous avons pour chaque jour, face à nos difficultés, face à nos afflictions. Je pense à Job, et vous savez bien que Job a souffert beaucoup plus que tout le monde ici ce matin. Il a dit ceci, « L'Éternel ne voit-il pas ma conduite? L'Éternel ne compte-t-il pas tous mes pas ?» Vous connaissez l'expression « faire les 100 pas ». Eh bien, il en a fait des centaines de pas, je crois, Job. Mais le Seigneur était auprès de lui. Il connaissait ses afflictions. Il connaissait sa conduite. Il comptait ses pas. Et nous pouvons dire la même chose. Le Seigneur sait ce que nous vivons. Il sait comment nous souffrons. Et le Seigneur nous invite, au lieu de bouder, au lieu de piquer des crises de colère ou de nerfs, il nous invite à nous tourner vers lui. Et à puiser dans notre communion avec lui le courage, la force dont nous avons besoin. Quatrième source de consolation. Ah ouais, voilà, c'était le deuxième. Voilà, la prière. la prière des autres. Loin de moi de pécher contre l'Éternel et de cesser de prier pour vous. Les paroles du prophète Samuel. Quatrième sujet, aux sources de consolation, voilà. L'enseignement biblique. Je lis chapitre 3, versets 1, 2 et 3. Paul écrit, « Aussi, n'y tenant plus, nous avons trouvé bon de rester seuls à Athènes, et nous avons envoyé Timothée, notre frère, ouvrier avec Dieu pour l'évangile du Christ, afin de vous affermir et de vous exhorter dans l'intérêt de votre foi, pour que personne ne soit ébranlé dans les tribulations présentes. Car vous le savez vous-même, c'est à cela que nous sommes destinés. » Nous sommes destinés à avoir des tribulations. C'est ça qu'il dit. J'aime pas trop ce verset-là. Il y a un verset de Jean-Pierre qui dit « Dieu nous a appelés à la souffrance ». J'aime pas ce verset-là non plus. Mais ces versets-là sont vrais, réalistes. Nous ne vivons pas dans une utopie, mais nous devons être des chrétiens réalistes, destinés à des tribulations, à des souffrances. Paul, donc, il veut se rendre à Thessalonique. Lorsqu'il écrit, il est à Athènes, dans le sud de la Grèce, Thessalonique est dans le nord de la Grèce, et il ne peut pas se déplacer, donc il envoie Timothée. Il envoie Timothée dans le but que les chrétiens soient affermis, encouragés, exhortés et consolés. Et quel est le moyen que Timothée il a à sa disposition pour encourager, exhorter, affermir et consoler les chrétiens? Il va parler. Il va parler de quoi? Ah, il va parler de la Bible. Il va expliquer, il va enseigner, il va exhorter les chrétiens avec la base, comme base, la parole de Dieu. Le moyen d'encourager les chrétiens était la parole de Dieu. Et encore, je me dis, mais lorsque nous sommes vraiment découragés, souvent la première chose qu'on fait, on laisse la Bible sur l'étagère. On boude le Seigneur. Mais la première chose que nous devons faire, à part prier, c'est de lire sa parole. Et Dieu va nous parler. Dieu va nous réconforter. Dieu va nous affermir. Dieu va nous encourager. Il va nous exhorter à aller plus loin avec lui. Et il va nous entourer et nous faire du bien. Il va nous rappeler des choses. Comme quoi, sans lui, on ne peut rien faire. On n'est pas ça non plus, hein, parce que parfois on se croit tout puissant. Mais on n'est pas tout puissant. Il est le tout puissant. Et nous avons besoin du Seigneur dans notre vie tous les jours. Nous avons besoin de la force qui vient de lui tous les jours. Vous savez, lorsque Salomon a construit le temple de Jérusalem, il a mis à l'entrée du temple deux énormes colonnes. Et il a donné un nom à chaque colonne. Et la première colonne s'appelait Yakin, c'était à gauche quand on entrait au temple, et à droite, la colonne s'appelait Boaz. Et chaque fois que les gens allaient au culte, ils passaient devant Yakin et Boaz. Je suis sûr qu'ils n'ont pas perdu le temps à saluer Yakin et Boaz, mais ils passaient devant ces colonnes. Et pour les Juifs, quand ils allaient au culte, ces colonnes contenaient un message en soi. Le message est tout simple. Yakin signifie Dieu affermi. Boaz signifie en Dieu est la force. Donc en allant au culte, les Juifs passaient devant ces colonnes et ils se disaient dans leur tête, parce qu'ils savaient tous Yakin, Boaz, ils savaient tous ça signifiait Dieu affermi, en Dieu est la force. En allant au culte, il s'est rappelé, Dieu m'a fermé, Dieu me donne la force. Et mieux, en sortant du culte, il passait devant les colonnes et il se disait, je suis sûr, en Dieu la force, à gauche, hein, en sortant, et Dieu m'a fermé. Donc pour faire face au monde, il s'est rappelé, Dieu me donne la force. J'ai besoin de Dieu. Alors je ne suis pas en train de promouvoir à ce qu'on demande à la mairie de Lyon 8e un permis de construction ou de construire pour mettre deux colonnes devant notre salle de culte. Mais lorsqu'on vient au culte, c'est bien de se rappeler au culte, Dieu veut m'affermir, Dieu veut me donner la force. Et en sortant de culte, et c'est même plus important quand on sort de culte, parce qu'on va faire face au monde, et à nos blouses du lundi matin, on doit se rappeler en sortant, à gauche, en Dieu la force, et à droite, Dieu m'a fermé. Lisez l'Ancien Testament, les amis, vous allez trouver plein de bijoux. À ce sujet-là, une petite anecdote. Devant la bibliothèque principale de la ville de New York, si vous y allez ce matin, vous allez trouver deux énormes lions. Et chaque lion a un nom. Et je me suis demandé, est-ce qu'ils se sont inspirés sur le temple de Jérusalem? Le lion à droite. Ça, c'est la droite, hein? Ouais. Le lion à droite s'appelle patience. Le lion à gauche s'appelle courage. Quand vous allez à la bibliothèque de New York, vous avez des centaines de millions ou des milliers de livres. Il faut de la patience pour lire un livre. Il faut du courage. Et dans la vie chrétienne, on a toujours besoin de patience. On a toujours besoin de courage. Que le Seigneur nous aide à trouver dans l'enseignement biblique, dans la lecture de la parole de Dieu, la force, le courage et la patience dont nous avons besoin. Voilà, une Bible avec une bougie. C'est Abraham Lincoln qui a dit que la Bible est le plus grand livre consolateur de l'humanité. Consolation grâce à la Bible. Cinquième source de réconfort qui va apparaître si ça n'apparaît pas. Voilà, l'œuvre que Dieu fait ailleurs. Je lis toujours chapitre 3 à partir du verset 6. Donc Paul a envoyé Timothée et puis Timothée est revenu. Mais Timothée, chapitre 3 verset 6, vient de nous arriver de chez vous. Il nous a donné de bonnes nouvelles de votre foi, de votre amour, du bon souvenir que vous gardez toujours de nous ou de votre désir de nous revoir, désir pareil au nôtre. Ainsi, au milieu de toutes nos calamités et de nos tribulations, frères, nous avons trouvé notre consolation à votre égard dans votre foi. Maintenant, nous vivons, puisque vous demeurez fermes dans le Seigneur. Quelles actions de grâce nous pouvons rendre à Dieu à votre sujet, pour toute la joie dont nous nous réjouissons à cause de vous, devant notre Seigneur. Si on lit entre les lignes, Paul dit, il était presque mort d'inquiétude. Et puis il dit, maintenant je vis. Et maintenant je suis consolé. Parce que je vois ce que Dieu fait chez vous. Timothée nous a rapporté des bonnes nouvelles et vous êtes toujours là. Vous êtes toujours présent malgré les tribulations. Et dans nos, vous avez vu le mot, calamités. Dans nos tribulations, nous sommes réconfortés. Parce qu'on voit que Dieu travaille chez vous. D'où le titre. On peut être consolé quand on voit ce que Dieu fait ailleurs. Pourquoi est-ce qu'on parle des lettres de nouvelles des missionnaires? Parce qu'on veut prier pour les missionnaires. Mais on veut aussi se réjouir parce qu'on voit que Dieu œuvre dans ces pays. Il y a quelques instants, Guy a parlé de Madagascar. J'étais à Madagascar il y a 2 ans. Et j'étais dans un culte, une salle de culte, les 3 dimanches que j'étais là-bas. Et dans une salle de culte, la salle était en bois. Mais à côté, c'était une bâche en plastique qui faisait peut-être la longueur de ce mur-là. Et à la fin du culte, j'ai demandé, mais le frère, pourquoi est-ce que vous avez 3 murs en bois et un mur, c'est juste une bâche en plastique? Il se dit, mais tu sais, frère, chaque année, il y a le cyclone. Et puis chaque année, ce mur-là, à cause de ce côté est, je crois bien, il dit, ce mur est toujours démoli. Donc on en a marre de reconstruire chaque année. Donc maintenant, on met une bâche. Et quand les cyclones viennent, bon, la bâche, on peut la remplacer plus facilement qu'un mur. C'est pas évident là-bas. Mais quand on lit et quand on sait ce qui se passe ailleurs, on peut être réconforté et encouragé, parce que parfois on se dit, bah, dans mon église, il n'y a rien qui bouge. Ben, je peux vous assurer que dans cette église, beaucoup de choses bougent. Mais parfois on se dit, dans mon église, il n'y a rien qui bouge. Mais quand on voit ce que Dieu fait ailleurs, on voit, mais Dieu est en train d'œuvrer ailleurs. Dieu est en train de construire son Église. Dieu est en train d'appeler des gens à souffrir mais aussi à annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. D'où l'importance de lire des revues missionnaires, de s'abonner à des revues bibliques missionnaires, de lire des livres chrétiens, autobiographies, biographies. Tout ça nous fait du bien, parce qu'on voit ce que Dieu est capable de faire et ce que Dieu fait ailleurs. Permettez-moi de vous parler de cet homme-là, Vijay Menon. Vijay n'était pas un DJ, d'ailleurs, il est toujours vivant, Vijay. Vijay, c'est un Indien qui était élevé dans une famille indienne, des hindous. Et là-bas en Inde, il passait devant des églises catholiques et il voyait toujours la croix avec le Christ dessus. Et il se disait toujours, oh là là, quel échec, quelle mort terrible pour ce pauvre monsieur. Il est venu, il ne connaissait pas grand-chose sur Christ, Vijay, mais il disait, mais c'était un échec de mourir comme ça. Tu vois, Vijay a fait des études et il a atterri à Londres. Et il travaillait dans la city, c'est-à-dire le quartier des affaires à Londres. Toujours en costard, il fréquentait des gens toujours bien habillés. Et puis, un jour à midi, il se promenait dans la cité, donc dans le quartier des affaires à Londres, et il voit plus des dizaines de messieurs qui allaient dans une certaine direction. Donc il dit, mais je vais les suivre. Et puis, il les suit. Et il se trouve dans une salle moderne, toute neuve, et il dit, ah, ça doit être un congrès sur les finances ou quelque chose. Donc il voit qu'il y a un buffet, donc il se sert, il mange, il ne connaissait personne, et puis tout le monde s'assoit, et un monsieur prend la place devant un pupitre comme celui-ci. Et puis il se rend compte, mince, je suis dans une espèce d'église. Parce que le monsieur, c'était un frère qui parlait de la Bible. Et il a dit, oh, je suis coincé. Je ne peux pas sortir parce qu'il y a des gens à gauche et à droite. Et je ne veux pas gêner tout le monde. Mais il paraît que ça va durer 20 minutes, donc je reste. Donc il reste, il écoute. Alors pour lui, la foi chrétienne lui posait trois problèmes. Et s'il était ici ce matin, il dirait, un problème était la croix. Un autre problème était le coût à payer de suivre Jésus, et l'autre problème était le Christ. Mais c'était qui, Christ? Pourquoi la croix? Et puis est-ce que je suis prêt à payer le prix, le coût, pour être disciple de Jésus? Donc, il écoute ce prédicateur, et il est drôlement interpellé dans son cœur. Pour la première fois, il entend parler du Christ, de la croix, de façon biblique. Donc, après, il rentre au bureau et le premier anglais qu'il voit au bureau, parce que lui, bien sûr, est indien, il dit, est-ce que tu sais où je peux trouver le livre religieux des chrétiens? Et cet anglais dit, ah, tu veux dire la Bible? Et bah oui. Il dit, mais Vijay, je t'ai vu tout à l'heure à la réunion. Et il dit, ah bon, tu étais là? Il dit, oui, j'étais là dans la foule et ça fait 2 ans que j'ai prié pour toi. Et ça fait 2 ans que j'ai envie de t'inviter à cette réunion. Et Vijay a dit, mais si tu m'avais invité, je n'aurais jamais accepté. Mais je suis arrivé par, entre guillemets, le mot hasard, avec un grand D, comme dit Pierre Lachat. Donc, le gars lui donne une Bible, et du coup, après quelques semaines, il s'est converti. Et les trois barrières tombent. Il comprend la raison de la croix, que la croix n'était pas un échec, mais c'était une victoire. Il comprend la raison de la venue du Christ, qui n'est pas venu pour condamner, mais pour sauver. Et il a compris le coût, le prix à payer. Il était prêt à dire, mais Seigneur, je me donne à toi, et même si ma famille me rejette, même si ma famille parle de me lapider, si je retourne en Inde, je suis prêt à accepter le coût, le prix à payer. Et aujourd'hui, cet homme-là, est évangéliste à Londres, dans le quartier des affaires, auprès des hommes et des femmes d'affaires. Il a pu se convertir en lisant la parole de Dieu. Encourageons-nous pas des histoires, des belles histoires qu'on entend à droite et à gauche, parce que ça nous fait du bien de savoir que Dieu est à l'œuvre ailleurs. L'avant-dernière source de consolation, le retour de notre Seigneur Jésus. Je vous invite à lire le dernier verset de chapitre 4, parce que le temps passe. Mais la dernière moitié de chapitre 4, Paul parle du retour de Jésus. C'est sûr et certain, aussi sûr que demain le soleil va se lever, aussi sûr que Jésus va revenir. Je prends le temps de lire à partir du verset 13. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, ou les chrétiens qui sont morts, afin que vous ne vous attristiez pas comme les autres qui n'ont pas d'espérance. En effet, si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, nous croyons aussi que Dieu ramènera aussi par Jésus et avec lui ceux qui se sont endormis. Voici, en effet, ce que nous vous déclarons, d'après une parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui se sont endormis. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange, au son de la trompette, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront en premier lieu. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons enlevés ensemble avec eux dans les nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Jésus va revenir. Jésus va nous sauver. Jésus va nous délivrer. Et Paul dit, consolez-vous les uns les autres par ces paroles. Jésus va bientôt revenir. Tous les chrétiens vont partir. Serez-vous prêts pour le rejoindre? Car ce jour-là va bientôt poindre. Vous connaissez cette chanson? Non, c'est bien parce que je l'ai inventée la semaine dernière. Mais même si j'ai inventé des paroles, la vérité est biblique. Mais tout le monde ici ce matin n'est pas prêt. Je suis certain que tous ne sont pas prêts à partir. Mais le fait de savoir que Jésus revient, qu'on sera avec lui, loin de nos calamités, de nos afflictions, de nos tribulations, de ceux qui ne nous aiment pas à cause de notre foi en Christ, eh bien c'est formidable de savoir qu'un jour on sera là-haut. Et la dernière chose que j'aimerais dire, la septième source de consolation, c'est l'œuvre de Dieu en moi. Je vous lis ces deux versets dans la transcription de Alfred Kuhn. Que le Dieu de paix vous rende pur et entièrement consacré à lui. Que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soit conservé dans son intégrité et dans la pureté, afin que vous paraissiez purs et irréprochables lorsque notre Seigneur Jésus-Christ reviendra. Celui qui vous a appelé est fidèle. Vous pouvez lui faire confiance. Il le fera et mènera à bonne fin l'œuvre commencée en vous. Septième source de consolation, tout simplement, Dieu est en train d'œuvrer dans notre cœur. Et Paul dit que Dieu continue son œuvre. Et puisque Dieu est fidèle, il va continuer son œuvre. Guy a employé le mot « sanctifier » tout à l'heure. Et c'est tout à fait ça, que Dieu sanctifie vous en entier, corps, âme et esprit. Dieu a commencé une œuvre, en nous, et il va l'achever. Il va continuer jusqu'à ce que ce soit terminé. Et ça aussi, c'est une source de consolation. Parce que même nos épreuves, même nos calamités, Dieu s'en sert pour faire une œuvre dans notre cœur. Même nos déceptions, Dieu s'en sert pour faire une œuvre dans notre cœur. Même nos maladies, Dieu s'en sert pour faire une œuvre dans notre cœur. Nos interrogations, Dieu s'en sert pour œuvrer dans notre cœur. Le Seigneur œuvre dans notre cœur. Nous ne sommes pas toujours conscients qu'il est en train d'œuvrer. Nous n'allons pas toujours sentir la main de Dieu. Mais croyons, faisons-lui confiance. Il est en train d'œuvrer dans notre cœur. Il nous demande de lui laisser la main et de le laisser faire. Parce qu'il sait ce qu'il nous faut. L'autre jour, j'ai appris comment on fabrique des saris indiens. Les saris indiens, ce sont ces beaux habits que les femmes indiennes mettent. Et il faut en moyenne entre 10 et 15 jours pour fabriquer un sari. Et dans les ateliers, dans certaines villes en Inde, c'est un père et un fils qui travaillent ensemble. Il n'y a pas de femme. C'est le père qui est assis en hauteur, le fils est assis plus bas, et le père passe les fils, le père décide la couleur, la quantité des fils et le motif, il passe tout ça au fils, et le fils avec une machine à pédale, il fabrique le sari en fonction de ce que le père lui dit, en fonction de ce que le père lui donne. Il a son outil, avec son outil, il fabrique le sari et après 10 à 15 jours, le produit est terminé. Et en toute beauté, c'est sari indien. Et quand j'ai appris ça, c'était un frère indien qui me dit ça l'autre jour, quand j'ai appris ça, j'ai dit, ah mais ça c'est une image de la sanctification. Le Père agit par le moyen du Fils qui utilise le Saint-Esprit qui est dans notre cœur pour faire quelque chose de beau. Un produit terminé qui est tout à la gloire du Père. Parce que c'est lui qui décide quel fil, quelle longueur, quelle couleur, quel motif. Ça passe par le Fils. Et le moyen, c'est l'esprit qui œuvre, la machine à pédale. L'esprit qui œuvre dans notre cœur. C'est le Saint-Esprit qui nous rend saints. C'est le Saint-Esprit qui nous sanctifie. Et le Père décide, le Fils, il suit les ordres du Père. Et dans la vie chrétienne, le Père, le Fils et l'Esprit travaillent ensemble pour agir dans notre cœur, pour utiliser tous les moyens, pour faire de nous des chrétiens saints, sanctifiés. Et les moyens qu'il utilise, la prière, la parole, les épreuves, la communion fraternelle, les calamités, les tribulations, les afflictions, tout est bon entre ses mains. Et il sait ce qu'il veut fabriquer. Première source de consolation dans nos calamités, dans nos difficultés, la présence de Dieu. Deuxième, les prières des autres. Troisième, la confiance en Dieu. Quatrième, la parole de Dieu, l'enseignement, la lecture biblique. Cinquième source, l'œuvre de Dieu ailleurs. Sixième, le fait de savoir que Jésus revient. Il nous délivrera. Septième source de consolation, l'œuvre de Dieu en nous, par son esprit. Celui qui vous a appelé fidèle, vous pouvez lui faire confiance. Il le fera et mènera à bonne fin l'œuvre commencée en vous. Prions. Seigneur notre Dieu, nous te remercions pour ton œuvre dans notre cœur. Et Seigneur, tu vois les difficultés que nous avons, parce que nous en avons tous. Tu vois les difficultés qui sont publiques et celles qui sont cachées, dont nous ne parlons pas. Seigneur, aide-nous dans nos difficultés, dans nos épreuves, dans nos tribulations, dans nos calamités, dans nos problèmes, dans nos interrogations. Aide-nous à nous confier en toi. Aide-nous à prier les uns pour les autres. Aide-nous à trouver des réponses et le réconfort dans ta parole, dans ta présence. Ô la paix que Jésus donne. Aide-nous à avoir cette paix en nous, sur nous, autour de nous, et aide-nous à rayonner cette paix autour de nous. Et merci pour ton œuvre ailleurs, merci pour ton œuvre dans notre cœur. Mais aide-nous, Seigneur, à te laisser œuvrer en nous, afin que tu nous rendes saints, afin que tu puisses parfaire cette œuvre que tu as commencée en nous, pour que nous soyons prêts à repartir et être auprès du Seigneur Jésus. Merci car c'est toi qui affermis, c'est toi qui donnes la force. Aide-nous en sortant de ce culte à voir ces deux colonnes et être affermis et fortifiés pour les jours devant nous. Tu connais toutes choses. Aide-nous à accepter nos limites et à nous confier en toi. Au nom de Jésus. Amen.